La mêle à une nuit, tome 8, chapitre 8, histoire d'Abou Zaber ou de l'homme patient. Sire, dit le jeune homme, un riche fermier nommé Abou Zaber avait une femme et deux enfants. Il demeurait dans un village qu'il rendait heureux par leur humanité et par les travaux qu'il procurait aux habitants. Les uns cultivaient les terres d'Abou Zaber, les autres avaient soin de ses nombreux troupeaux. Un de ces gens revint un jour à la maison saisi d'effroi et lui dit qu'il avait vu rôder un lion dans le voisinage. En effet, l'animal déchira le même jour quelques moutons. Il en fit autant le lendemain et continuait tous les jours ses ravages. Les troupeaux d'Abou Zaber diminuaient rapidement et allaient être entièrement détruits. Sa femme, affligée d'un événement qui pouvait entraîner la ruine de leur fortune, lui dit au bout de quelques jours « Mon ami, ce lion a déjà fait périr la plus grande partie de nos bestiaux. Monte à cheval, mets-toi à la tête de ta maison, cherche la retraite de ce féroce animal et débarrasse-nous de ce fléau. » « Ma femme, répondit Abou Zaber, prends patience. La patience est ici le parti le plus avantageux. Le lion, auteur de nos maux, est cruel, injuste et méchant. Dieu punit les injustes. La méchanceté du méchant retombe toujours sur lui, et la patience seule nous débarrassera de celui-ci. » Quelques jours après, le roi étant à la chasse, rencontra le lion. On le poursuivit, on l'entoura et on le tua. Abou Zaber, ayant appris cette nouvelle, dit à sa femme « N'avais-je pas raison de te dire que la méchanceté du méchant retombe sur lui? Si j'avais voulu tuer moi-même ce lion, je n'aurais peut-être pas réussi. Voilà l'avantage de la patience. » Quelque temps après, il se commit un assassinat dans le village qu'habitait Abou Zaber. Le roi, pour punir le village, fit saccager et mettre au pillage. On enleva une grande partie de ce que possédait Abou Zaber. Sa femme lui dit alors « Tous ceux qui sont auprès du roi te connaissent et sont convaincus de ton innocence. Présente une requête au roi afin qu'il te rende tes biens. » « Ma femme, répondit Abou Zaber, ne vous ai-je pas dit que le mal retombe toujours sur celui qui le fait? Le roi fait du mal, il en sera puni. Quiconque prend le bien d'autrui doit se voir bientôt enlever le sien propre. » Un des voisins d'Abou Zaber, autrefois jaloux de son opulence et qui était toujours son ennemi, entendit ses propos et en informa le roi. On enleva, par son ordre, tout ce qui restait à Abou Zaber et on le chassa de sa maison avec son épouse et ses enfants. Comme ils s'avançaient dans la campagne, sans trop savoir où porter leurs pas, la femme d'Abou Zaber lui dit « Tout ce qui nous arrive est l'effet de ta lenteur et de ta négligence. » « Ma femme, répondit-il, aie patience. La patience est toujours récompensée. » À peine avait-il fait quelques pas qu'ils furent rencontrés par des voleurs, qui leur enlevèrent le peu qu'ils avaient avec eux, les dépouillèrent de leurs habits et emmenèrent leurs deux enfants. La femme d'Abou Zaber lui dit alors en pleurant « Mon ami, laisse là tes idées, cours après les voleurs, peut-être auront-ils pitié de nous et nous rendront-ils nos enfants ?»« Ma femme, répondait toujours Abou Zaber, aie patience, l'homme qui fait le mal en est toujours puni, et souvent le mal qu'il fait tourne contre lui. Si je cours après ces voleurs, l'un d'eux peut-être tirera son sabre, me tuera, et alors, que deviendrais-tu? Aie patience, te dis-je, la patience est toujours récompensée. » En continuant leur route, ils arrivèrent à un village du Kerman, près duquel coulait une rivière. « Arrête-toi un instant, dit Abou Zaber à son épouse, afin que j'aille dans ce village m'informer de l'endroit où nous pourrons loger. » En disant ces mots, il laissa sa femme sur le bord de la rivière et se rendit au village. Tandis qu'il était au village, un cavalier vint faire boire son cheval à la rivière. Il vit la femme d'Abou Zaber, la trouva de son goût et lui dit « Montez avec moi, je vous épouserai et vous ferai un sort avantageux. »« Je suis mariée, répondit l'épouse d'Abou Zaber. » Le cavalier, tirant alors son sabre, la menaça de la tuer si elle ne consentait pas à le suivre. La malheureuse, ne pouvant opposer de résistance, écrivit avec le bout du doigt sur le sable. « Oh, Abou Zaber, tu as perdu par ta patience ton bien, tes enfants, ta femme enfin, qui t'était plus chère que tout. Te voilà seule, et nous verrons à quoi te servira ta patience. » Le cavalier ne lui laissa pas le temps d'en écrire davantage, il la prit en croupe et s'enfuit avec elle. Abou Zaber étant de retour et n'en voyant pas sa femme, lut ce qui était écrit sur le sable. Il se mit à pleurer et s'assit, accablé de chagrin. « Abou Zaber, dit-il en lui-même, c'est à ce moment qu'il faut plus que jamais t'armer de patience. Mais peut-être es-tu réservé à quelque épreuve encore plus rude. » Se levant ensuite, il marcha comme un homme égaré et sans savoir où il allait. Il arriva dans un endroit où l'on faisait travailler les gens par corvée à bâtir un palais pour le roi. Aussitôt qu'on vit Abou Zaber, on le prit et on lui dit de travailler avec les autres à bâtir le palais ou qu'il allait être mis en prison pour toute sa vie. Abou Zaber se joignit aux ouvriers et recevait par jour, pour tout salaire, un petit pain d'orge. Il travaillait ainsi depuis un mois lorsqu'un de ses camarades se laissa tomber du haut d'une échelle et se cassa la jambe. Comme il criait et se lamentait, Abou Zaber s'approcha et lui dit « Prends patience et ne pleure pas. La patience adoucira ton mal. »« Et jusque quand me faudra-t-il avoir patience ?» répondit brusquement l'ouvrier. « Et toujours patience, » reprit Abou Zaber, « car la patience peut tirer un homme du fond du puits et le faire monter sur le trône. » Le roi, dont on bâtissait le palais, était en ce moment par hasard à une fenêtre. Il entendit les paroles d'Abou Zaber, en fut irrité et ordonna qu'on le saisît. Il y avait dans le palais un puits, accompagné d'un vaste souterrain. Le roi l'y fit descendre et lui dit « Insensé, tu vas voir maintenant si tu pourras sortir de ce puits et monter sur le trône. » Le roi revint le lendemain dire la même chose au malheureux Abou Zaber. Tous les jours, il lui faisait donner un pain et lui répétait les mêmes paroles auxquelles l'infortuné ne répondait rien. Le roi avait eu autrefois un frère, contre lequel il avait conçu de la jalousie et qu'il avait fait renfermer dans ce souterrain. Ce frère n'avait pu supporter longtemps l'ennui et la rigueur d'une telle captivité. Les grands du royaume, qui ignoraient sa mort, murmuraient d'une détention aussi longue et taxaient le roi d'injustice. D'autres raisons se joignant à celle-ci, le mécontentement devint général. Le roi ne fut plus regardé que comme un tyran. On se jeta un jour sur lui et on le tua. On alla aussitôt au souterrain et on fit sortir Abou Zaber, que l'on prenait pour le frère du roi. La ressemblance qu'Abou Zaber avait réellement avec lui, le temps écoulé depuis que ce frère avait été renfermé, tout cela fit qu'on ne s'aperçut pas de l'erreur. Un des principaux seigneurs du royaume vint dire à Abou Zaber « Nous nous sommes défaits de votre frère, dont la tyrannie était devenue insupportable, et vous allez régner à sa place. » Abou Zaber ne répondit rien et reconnut que son élévation était la récompense de sa patience. On le revêtit des habits royaux et on le fit monter sur le trône. Abou Zaber fit régner avec lui la justice et l'équité. En se montrant généreux et bienfaisant, il gagna l'amour de ses sujets et se fit obéir autant par amour que par devoir. Il ne négligeait pas les affaires du dehors. Il avait soin de bien défendre ses frontières et entretenait de nombreuses armées. Le roi, qui avait fait enlever à Abou Zaber tout ce qu'il possédait et qu'il avait chassé du village qu'il habitait, éprouva bientôt pour lui-même un sort pareil. Un de ses voisins, avec lequel il était en guerre, entra dans son pays à la tête d'une armée considérable, s'empara de la capitale et l'obligea de se dérober par la fuite à la cruauté du vainqueur. Ce roi fugitif, accompagné seulement de quelques officiers, vint à la cour d'Abou Zaber pour lui demander du secours. Ils se reconnurent à la première entrevue. « Tu vois, lui dit Abou Zaber, l'effet est la récompense de la patience. Le Tout-Puissant te livre entre mes mains. » Abou Zaber ordonna qu'on dépouillât le roi fugitif et ses officiers de tout ce qu'ils avaient, leur fit ôter même leurs habits et les chassa de ses états. Toute sa cour, l'armée et le peuple furent étonnés de ce traitement qui paraissait si contraire à l'humanité qu'Abou Zaber avait montré jusque-là et n'en concevait pas la raison. On se disait mutuellement « Quelle est donc la conduite de notre souverain ?» Un roi voisin vient implorer son secours et il le dépouille de tout. Ce n'est pas ainsi que les rois en agissent ordinairement. Quelque temps après, Abou Zaber ayant appris que des voleurs infestaient une province de ses états, envoya des troupes à leur poursuite. Ils furent surpris, entourés et amenés devant lui. Abou Zaber les reconnut pour les brigands qui lui avaient enlevé ses enfants. Il demanda au chef de la troupe où étaient les enfants qu'ils avaient enlevés tel jour dans tel endroit. Le chef des voleurs lui répondit « Sire, les voici parmi nous. Les sentiments que nous avons remarqués en eux les mettent au-dessus de notre profession. » accrochez-les à votre service. Prenez aussi leurs richesses que nous avons amassées et que nous sommes prêts à vous découvrir. Nous renoncerons au métier de brigand et nous combattrons dans vos armées pour la défense de l'Empire. » Le roi donna ordre de faire entrer dans son appartement les deux jeunes gens. Il demanda ensuite au chef des voleurs où étaient leurs richesses. Le chef des voleurs lui indiqua les souterrains où ils étaient enfermés. Dès qu'il eut fait cette déclaration, le roi commanda qu'on lui tranche à la tête ainsi qu'à tous ses compagnons. Les sujets d'Abou Zahber murmurèrent de plus en plus contre lui. « Ce roi, disait-il, est encore plus injuste que son frère. Ces voleurs ont découvert de grandes richesses et au frais de renoncer à leur brigandage. Il fait grâce à deux d'entre eux et fait mourir les autres. » À quelque temps de là, un cavalier vint se plaindre à Abou Zahber que sa femme repoussait ses caresses et n'avait pour lui que du mépris. « Faites venir votre femme, lui dit le roi. Il est juste que j'entende ses raisons. » Le cavalier sortit et revint peu après avec son épouse. Abou Zahber l'eut à peine reconnu qu'il ordonna qu'on la conduisît dans son appartement et qu'on coupât la tête au cavalier. À ce nouvel arrêt, les grands et le peuple ne purent contenir leur indignation et les murmures éclatèrent de toutes parts. Abou Zahber prit alors la parole et dit « Grand de l'État, vizir, et vous tous qui êtes ici présents, il est temps de vous découvrir la vérité et de faire cesser tout à la fois et votre erreur sur ma personne et l'étonnement que vous cause le jugement que je viens de rendre. Je ne suis pas le frère de votre dernier roi. Étranger dans ces lieux, j'ai venu chercher un asile. On s'empara de moi et on me fit travailler de force à la construction de ce palais. Un de mes compagnons de travail s'étant cassé la jambe, je l'exhortais à la patience en lui disant « L'excellence de la patience est telle qu'elle pourrait élever sur le trône un homme précipité au fond d'un puits. » Votre dernier roi m'entendit et fut choqué de cette maxime, prétendit m'en prouver l'extravagance et me fit descendre dans un puits. Vous m'en avez tiré pour me placer sur le trône. Dieu a voulu par là justifier la vérité de la maxime que mon prédécesseur traitait de folie et récompenser la patience que j'ai montrée dans les malheurs que je vais vous raconter. Ce roi voisin, qui venait implorer mon secours et que j'ai renvoyé après lui avoir ôté tout ce qu'il avait, fut autrefois mon souverain. Il s'empara injustement de tous mes biens et me chassa de mon pays. Je n'ai fait qu'user envers lui de représailles et lui faire subir la loi du talion. Les voleurs, exécutés par mon ordre, m'enlevèrent le peu que j'emportais dans mon exil, m'ôtèrent jusqu'à mes habits et emmenèrent avec eux mes enfants. Ce sont ces deux jeunes gens que j'ai fait entrer dans le palais et que vous avez regardés comme des voleurs à qui je faisais grâce. Quant aux brigands qui me les avaient enlevés, je ne pouvais avoir égard à leur repentir et à leur protestation. Ils avaient mérité plus d'une fois la mort et n'étaient pas dignes de servir l'État. Le cavalier à qui on en tranchait la tête me ravit ma femme, la seule consolation qui me restait. J'avais droit de la reprendre, et c'est elle que j'ai fait conduire dans l'intérieur du palais. Tels sont les motifs de la conduite que j'ai tenue dans ces dernières circonstances. Si elle vous a d'abord paru injuste et cruelle, vous devez maintenant reconnaître qu'elle est conforme aux règles de la justice et de la plus exacte équité. Les grands du royaume, ayant entendu le discours d'Abou Zahber, se prosternèrent à ses pieds et lui demandèrent pardon des murmures qui leur étaient échappés. Ils lui témoignèrent leur admiration de la patience avec laquelle il avait supporté tant de maux, et lui protestèrent que ce qu'il venait d'apprendre ne faisait qu'augmenter leur attachement et leur amour pour lui. Abou Zahber les remercia et s'empressa d'aller rejoindre sa femme et ses enfants. Il fit éclater la joie qu'il avait de les revoir et dit à sa femme « Tu vois les avantages et la récompense de la patience? Ses fruits se font attendre, mais ils sont aussi doux que ceux de la précipitation sont amers. » Ainsi donc, ô roi, dit le jeune intendant à Zabart, quelle que soit votre grandeur et votre puissance, vous ne devez pas dédaigner de faire usage de la patience. L'histoire d'Abou Zahber, ou l'homme patient, avait un peu apaisé la colère d'Zabart. Il donna ordre de reconduire le jeune homme en prison. Le quatrième vizir, nommé Souchad, se présenta devant le roi le quatrième jour, s'inclina profondément et lui dit « Sire, ne vous laissez pas séduire par les récits de votre jeune esclave. Tant qu'il vivra, vos sujets ne cesseront de s'entretenir de sa témérité et vous ne pourrez jouir d'un repos assuré. » « Tu as raison, vizir, dit le roi à Zahber. Qu'on amène cet insolent, je vais lui faire trancher la tête. » Le jeune intendant fut aussitôt amené chargé de chaînes. « Malheureux, lui dit le roi, Tu crois par tes discours me faire oublier ton forfait et éviter la mort par ton éloquence. Mais l'injure que tu m'as faite est trop grande pour que je puisse en perdre le souvenir, et je veux la laver aujourd'hui dans ton sang.
Sire, répondit le jeune homme, ma vie est entre vos mains. Vous pouvez en disposer quand vous voudrez. Mais attendez encore un peu. La précipitation est le défaut de la multitude. La patience est la vertu des souverains. Plus leur puissance est grande, plus ils doivent en user avec prudence. D'un mot, vous pouvez trancher le fil de mes jours. Mais vous ne pourrez le renouer si par hasard vous éprouvez dans la suite quelques regrets. L'histoire du prince Behzade renferme plusieurs traits qui montrent bien les dangers de la précipitation.
Eh bien, dit Adzabart, je consens à t'entendre encore raconter cette histoire.